l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Février 2025, exactement 6h15, c'est une nouvelle édition du journal sur Radio Mandeléo. Au sommaire de cette édition du journal, le groupement des Kalunga en territoire des Calais a déjà enregistré plus de 1000 familles de déplacés fuyant la guerre entre les forces armées de la RDC et les rebelles du 1-23 à Goma au nord Kivu et à Minova au sud Kivu. En plus des manques d'abri, de la nourriture et des médicaments, ces déplacés n'ont pas accès à l'eau potable, alerte la société civile du milieu. Au sommaire également, à l'occasion de la célébration de la 33e journée mondiale des malades, 15 personnes retenues à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, faute de paiement, ont vu leur facture être honorée par la commission sociale de cette structure sanitaire. Et le député national Vital Mouini demande la population du Sud Kivu, plus particulièrement celle des Calais, à la résilience et résistance face à l'ennemi. Il invite la justice militaire qui instruit sur les dégâts causés par des militaires incontrôlés de ne pas oublier que les habitants du territoire des Calais ont aussi été victimes de cette barbarie. Vous suivrez le député national Vital Mouini, élu des Calais, dans notre rubrique éléments de reportage. La technique est assurée par Anissé Akonko. Microphone pour la présentation, je suis Omer Moudé-Kireza. Mesdames, Messieurs, vous suivez Radio Mandeléo, celle qui vous informe à part un instant. C'est tout pour les titres. Place à présent au détail. Direction Calais pour débuter cette édition du journal. Plusieurs sources confirment la reprise des combats aux alentours du Houssi dans les territoires des Calais depuis l'après-midi de lundi 10 février 2025 entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie du Wazalendo et les rebelles du 1-23 appuyés par le Rwanda. Après près de 48 heures d'accalmie, ce sont les éléments du 1-23 en position dans le village de Mwongoza qui auraient lancé le premier assaut sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo qui avait pris position vers Murambi, non loin des Youssi. Les affrontements ont duré tout l'après-midi de lundi 10 février 2025 jusqu'à vers 21h avant de reprendre le matin d'hier mardi 11 février aux environs des 5h du matin, explique des témoins et autres défenseurs de droits humains encore présents dans la zone. Nos sources indiquent que durant les deux jours d'accalmie, le 1-23 se serait renforcé en hommes et en munitions sur toutes ces lignes. C'est mardi, hier donc, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans et autour des Youssi Centre, provoquant une panique des nouveaux déplacements des populations vers les entités jugées stables. Bien plus, le rapport est des blessés dans les rangs des civils qui ont été touchés par des balles perdues. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, plus de 1000 familles de déplacés fuyant les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du 1-23 à Goma, au nord Kivu et à Minova au sud Kivu sont déjà en enregistré dans les groupements des Kalunga et en territoire des Calais. L'alerte est de la société civile du milieu dans un entretien avec Radio Mandeléo hier, mardi 11 février 2025. N'est-ce pas, Alain Kabika?
Parmi ces déplacés figurent également ceux qui viennent de Kavumu et Miti en territoire des Kabare, ainsi que de Bunyakiri et Bitale en territoire des Kalehe. À ce jour, poursuit la société civile Sunao de Kalungi, ces déplacés vivent certains dans des familles d'accueil à Chifunzi Centre, à Bumoga et d'autres à Rambo, mais dans des conditions difficiles sans aucune assistance. Plusieurs d'entre eux vivent dans des écoles et des églises, alors que ceux qui n'ont pas de possibilités passent la nuit à la belle étoile, exposés aux intempéries, explique la société civile locale. En plus du manque d'abri, de la nourriture et des médicaments, ces déplacés n'ont pas accès à l'eau potable, ce qui pourrait occasionner des maladies si rien n'est fait dans l'urgence, alerte le président de la société civile Sunao de Kalunga, Eric Makusudi, qui appelle les autorités et les organisations humanitaires à leur apporter une assistance. Eric Makusudi.
C'est au moins 1083 familles. Ils vivent dans une mauvaise condition qui nous pousse de plaider aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide pour qu'ils trouvent à manger ou à boire parce qu'ils sont dans une situation très grave. Si il y aura réaction du gouvernement, vraiment, vous êtes tout le monde les bienvenus pour aider nos confrères.
Et dans une note de plaidoyer conjoint, La société civile de Calais, en collaboration avec d'autres structures, plaide pour l'implication des autorités à tous les niveaux pour stopper cette guerre qui comporte plusieurs conséquences. Ces structures plaident pour les abris d'urgence en faveur des déplacés, assurer la distribution de la nourriture et de l'eau potable, renforcer les structures sanitaires pour mieux prendre en charge la population sinistrée galopante et au phare d'essayer de jouer réellement leur rôle de protection des populations civiles.
Pendant ce temps, l'instruction s'est poursuivie hier mardi 11 février, deuxième jour du procès, qui oppose les ministères publics et partis civils contre les éléments de forces armées de la RDC, présumés auteurs de plusieurs actes de vandalisme, tuerie et pillage des Akalehe, Kabamba, Katana, Kavumu, Miti, Mudaka et Bukavu. Sur les 84 éléments qui ont été présentés lundi dernier par le ministère public, se sont ajoutés 188 autres, ce qui ramène le nombre à 272 prévenus qui comparaissent par devant le tribunal militaire des garnisons de Bukavu. Hier mardi, le tribunal a poursuivi avec l'identification des prévenus qui suivra l'étape de l'instruction proprement dite, à en croire des sources proches de la justice militaire présentées comme des fuyards de guerre par le ministère public qui les attrait en justice. Ces éléments sont en majeure partie composés des sergents, des caporaux et soldats de deuxième classe qui sont poursuivis pour avoir commis des actes attentatoires à la vie et au bien des personnes qu'ils étaient censés protéger, a argumenté le ministère public lisant l'acte d'accusation le lundi 10 février 2025. Pour parmi les préventions figurent la fuite devant l'ennemi, viol, meurtre, pillage, révolte, perte d'armes, dissipation des munitions, selon une source proche de la justice militaire. Entre-temps, nous apprenons que les services des renseignements militaires poursuivent la traque contre d'autres éléments fuyards des guerres qui continuent de se cacher dans la population et qui sont à la base de l'insécurité dans différentes entités au sud de Kivu. Précisons que l'audience se poursuit ce mercredi 12 février 2025. Toujours au chapiteau à la botte en commune d'Ibanda. Et le député national Serge Bahati plaide pour des sanctions sévères à l'endroit des militaires auteurs de crimes répréhensibles en territoire des Kabars en cette période où la province du Sud qui vous fait face à la menace du M23. L'élu des Kabars trouve inacceptable qu'elle en discipline vienne des rangs des éléments censés protéger la population. Il condamne ces actes qui sont manifestés par des tueries et des pillages des biens de populations civiles. Serge Bahati invite les autorités compétentes à agir en toute urgence pour restaurer la quiétude dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le député national Serge Bahati.
Nous condamnons avec la plus grande fermeté les exactions commises contre nos concitoyens, les pertes en vies humaines, les violences et les pillages systématiques des biens des populations civiles sont inacceptables. Nous déplorons particulièrement les actes tragiques récemment perpétrés à Kabare, ainsi que les comportements répréhensibles de certains éléments indisciplinés au sein des forces armées censés protéger et non nuire à la population. Nous tenons à exprimer toute notre solidarité et notre compassion envers nos compatriotes affectés par ces épreuves. Nous appelons les autorités compétentes à tous les niveaux à agir avec célérité pour restaurer la paix à l'est du pays. Il est urgent de sanctionner sévèrement les auteurs de ces crimes et de rétablir l'ordre et la discipline au sein de nos forces de sécurité.
Enfin, il demande à la communauté internationale de prendre conscience de la gravité de la situation et d'assumer ses responsabilités pour favoriser la paix et la stabilité dans la région. Et pendant ces temps, l'Interfédération de l'Union pour la Nation Congolaise UNC Sud Kivu condamne avec fermeté les menaces de mort contre les présidents de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et président de l'UNC, ainsi que les tentatives de déstabilisation de son leadership parlementaire au travers des strates médiatiques. Ceci est contenu dans une déclaration politique de l'UNC Sud Kivu rendue publique hier mardi 11 février, dont une copie a été déposée à la rédaction de Radio Maïndéléo. Dans cette déclaration, l'Interfédération de l'UNC Sud Kivu s'est dit choquée de la campagne de diabolisation et de menaces de mort proférées à l'endroit de Vital Kamerhe par des réseaux de personnes identifiées membres ou sympathisants de l'UDPS Tshisekedi. Les cadres militants et sympathisants de l'UNC Sud Kivu font savoir dans cette déclaration que Vital Kamerhe a combattu par voie politique et pacifique les rébellions successives qui ont tenté de balkaniser le pays jusqu'à contribuer significativement à l'établissement d'un ordre politique consensuel transitoire et en conduit la RDC à sa réunification à un nouvel ordre constitutionnel et aux élections de 2006. Ces derniers indiquent dans cette déclaration que leur président est un patriote de premier rang comme il avait prouvé en 2009 en s'opposant à la présence des troupes étrangères sur le sol congolais jusqu'à renoncer au perchoir de l'Assemblée nationale. Au moment moment où le pays fait face à une agression lui imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 dans sa partie est. Il s'observe la mobilisation d'une bande médiatique pour détruire l'image de Vital Kamerhe, regrette l'interfédération de l'UNC Sud Kivu. Ainsi, cette dernière demande l'arrestation de tous ceux qui sont impliqués dans ces dérapages et encourage l'initiative d'injonction donnée par le ministre de la Justice et procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe afin de procéder à l'interpellation et aux poursuites de Bokwala Ilongi. Enfin, tout en réitérant son soutien au président de la République, l'UNC Sud Kivu encourage les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Wazalendo pour leur dévouement à protéger l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Entre-temps, le consortium des organisations de jeunes et des mouvements citoyens du Sud Kivu exige des garanties de sécurité effectives et renforcées à l'égard du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe ainsi qu'à sa famille. Cette recommandation est contenue dans une déclaration rendue publique hier mardi 11 février 2025 dans la ville de Bukavu, n'est-ce pas Alain Kabika?
Dans cette déclaration, ces consortiums indiquent que depuis 2020, des attaques belliqueuses et des manœuvres malveillantes sont montées contre Vital Kamerhe par des acteurs politiques identifiés membres de l'Union sacrée de la nation. Les signataires de cette déclaration font savoir en outre que son plan de paix pour l'est du pays avait été présenté en septembre 2022, alors que les rebelles et leur soutien rwandais étaient encore loin à Bunagana, mais a été rejeté et combattu par ceux qui préfèrent l'inaction et la division. Il s'interroge sur comment accepter un tel traitement pour un homme qui, à chaque étape de sa carrière, met l'intérêt de la nation au-dessus de tout. Il condamne la campagne de destruction qui vise à éliminer un acteur de la scène politique nationale et plaide pour des actions exemplaires contre tous ceux qui ont appelé à la violence contre Vital Kamerhe. Suivez un extrait de la déclaration du consortium des organisations des jeunes et des mouvements citoyens du Sud Kivu, lu par l'un d'eux, Amos Bissimoa.
Les jeunes du Sud Kivu exigent 1. La protection immédiate de l'honorable Vital Kamerhe. 2. Sanctions exemplaires contre les auteurs de menaces. 3. Nous demandons à tous ceux qui ont participé à cette campagne de diffamation de présenter des excuses officielles. 4. Du respect de l'unité et de la cohésion nationale. Si Kinshasa est fatigué de voir Vital Kamerhe vivant, nous exigeons qu'il soit renvoyé vivant à l'est du pays où il est un symbole de l'espoir et de résistance.
Il demande au président de la République, en sa qualité de garant de la nation, de mettre un terme à cette injustice et d'agir en vue de protéger Vital Kamerhe et sanctionner ceux qui cherchent à diviser le pays pour des fins purement politiques.
Suivez Radio Maindeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaindeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maindeleo. Radio Maindeleo, c'est vous.
Échangeons des chapitres à présent. Bloqué à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, faute des paiements des factures de leurs soins médicaux. 15 personnes sont sorties de cette structure hier mardi 11 février 2025. Elles ont reçu l'autorisation de sortie ce jour à l'occasion de la journée mondiale des malades, célébrée sous le thème « Guérir les relations pour guérir les malades ». Expédie Kialou.
Peu avant la remise des bons de sortie à ces personnes, une messe a été dite dans la chapelle de l'hôpital provincial général des références de Bukavu par le vicaire général, Mgr Floribert Bashimbe. Dans son homélie, l'officiant du jour a demandé aux malades d'avoir foi en Dieu, car dans sa grandeur, c'est lui qui a créé l'homme à son image, et rien ne lui est impossible. Pour sa part, Yvette Koudjira-Kouindja, médecin gynécologue et responsable de la commission sociale à l'hôpital provincial, précise que cet élan de compassion est habituel grâce aux contributions des donateurs. En décembre dernier, dit-elle, 16 personnes ont été libérées et la dynamique s'est poursuivie en janvier avec l'octroi des autorisations de sortie à 39 personnes autres.
Cette collecte a commencé depuis le mois de décembre. Nous avons collecté des fonds qui ont permis à ce qu'on a libéré 16 malades guéris, sortis, non sortis, c'est-à-dire des malades que nous avons soignés, mais qui n'ont pas eu les moyens d'honorer leurs factures. Vers le mois de janvier, la direction de l'hôpital a aussi libéré 39 malades. Et pour la journée d'aujourd'hui, avec l'appui de nos bienfaiteurs, nous avons encore libéré 11 autres malades. Il faut noter aussi que le mouvement sacerdotal marial avec qui nous travaillons a aussi libéré 4 malades.
Bénéficiaire de cette faveur, Balem Pakanira, garçon âgé de 25 ans, remercie les bienfaiteurs pour ce geste de charité. Victime d'inondations en territoire de Calais en 2023, il a suivi les soins et a été autorisé de sortir en novembre 2023, mais faute des moyens, il est resté coincé à l'hôpital.
Merci au Seigneur, je dis merci vraiment à l'hôpital général provincial de Bukavu. J'étais ici comme un patient l'année 2023, le 29 septembre. Aujourd'hui, on m'a fait sortir le 11 février 2025.
De son côté, le médecin directeur de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, le docteur Guy Moulinganya, remercie les personnes physiques et morales qui se joignent à la chaîne de solidarité en faveur de malades. En cette période de guerre, il remercie particulièrement les donneurs bénévoles de sang dont l'apport est de grande utilité pour les blessés par arme.
Et pendant ces temps, plusieurs personnes traînent dans les hôpitaux et autres structures de santé dans la province du Sud-Kivu pour non-paiement de factures après la période de leur hospitalisation. Ce constat est perceptible dans les structures sanitaires des milieux urbains et ruraux, n'est-ce pas, Riki Ombeni?
Certaines personnes sont admises pour des interventions chirurgicales ou des maladies dont le traitement nécessite un bref séjour dans des hôpitaux, mais elles y passent plusieurs mois, voire même des années par défaut de paiement. C'est également le cas pour plusieurs femmes vulnérables qui restent dans les hôpitaux pour des traitements post-accouchement et qui voient leurs enfants grandir et adopter les structures de santé comme leur milieu de vie naturelle, leurs parents ayant été dans l'incapacité d'honorer les factures d'hospitalisation. Dans certaines structures, les conditions de leur hébergement sont déplorables car elles sont obligées de céder leur lit aux personnes qui suivent encore le traitement. Dans ce contexte, des femmes sont obligées de dormir au sol dans les salles communes ou dans les couloirs des hôpitaux. Bloquée depuis plus de 3 mois à l'hôpital, une femme témoigne sous anonymat les calvaires qu'elle traverse.
Je ne suis pas contente de rester ici à l'hôpital. On nous a déjà jetés dehors. Nous ne dormons plus dans les locaux de l'hôpital. Cette situation est générale. Je peux vouloir qu'on honore aussi ma facture pour que je sorte d'ici.
Dans d'autres structures, les parents des malades guéris ou les guéris eux-mêmes sont parfois autorisés à sortir la journée pour travailler et revenir le soir, une façon de leur donner la possibilité de payer petit à petit les factures. D'autres sont soumis à des travaux au profit de ces structures médicales en compensation des factures dites. En plus de l'intervention du ministère en charge des affaires sociales et humanitaires, ces personnes plaident pour une chaîne de solidarité en leur faveur dans tous les hôpitaux de la province du Sud-Kivu.
Et à 6h passées des 31 minutes avant de parler sport dans ce radio-journal, disons que le mouvement citoyen observatoire d'action parlementaire et gouvernementale Noao de Calais dans le territoire de Calais lance un appel pressant aux sociétés de téléphonie mobile Vodacom et RTL de rétablir la connexion dans cette partie du Sud-Kivu. Dans une dépêche rendue publique avec copie à Radio Maïndeleo, cette structure citoyenne, on dit que le réseau RTL n'a plus fonctionné dans Kalungé et a de cela plus de 6 mois déjà. À ceci s'ajoute les dysfonctionnement du réseau Vodacom depuis plus d'une semaine dans leur entité. Cette situation place le groupement des Kalungé dans un isolement et une incertitude totale en cette période où le territoire des Calais fait face à une insécurité causée par les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda. Yoweli Nyabirungu, militant de l'OAPE GRDC Noao de Kalungé, exhorte ses sociétés de télécommunications de tout mettre en œuvre pour rétablir la connexion dans leur entité.
Vodacom est resté la seule raison opérationnelle dans le groupement de Kalungé. Maintenant, il y a déjà plus d'une semaine que ce dernier est coupé dans ce groupement de plus de 250 000 habitants. Cette situation reste jusqu'à présent irrésolue, laissant la population de Kalungé dans un isolement sans précédent. Étant donné que le groupement de Kalungé fait partie du territoire de Calais et actuellement sous menace de l'insécurité causée par le M23, rester ce dernier temps sans connexion serait pour nous une façon de sacrifier cette population qui n'arrive plus à accéder aux informations relatives à l'évolution de la situation sécuritaire dans son territoire. Ceci étant, OBAPEJ RDC Noao de Kalungé demande à la société Vodacom de s'impliquer urgemment pour résoudre ces problèmes en fait de désenclaver ces groupements.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maïndeleo. du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Pour la phase préliminaire de la 60e édition de la Coupe du Congo de football débute à la fin de ce mois de février 2025. De ce fait, la Ligue de football du Sud-Kivu invite les équipes intéressées à s'enregistrer auprès de son secrétariat moyennant paiement de frais de participation. Cette annonce concerne les équipes de la Ligue 1, de la Ligue 2 et celles engagées dans les championnats des entités subdélégataires de la Ligue, indique Fiston Kouibé, secrétaire de la Ligue de football du Sud-Kivu. Cette annonce suscite beaucoup de réactions dans la sphère sportive du Sud-Kivu. Anani Lunanga, dirigeant sportif et député provincial élu de Bukavu, juge inopportun d'organiser ce tournoi en février tenant compte du contexte sécuritaire précaire dans la partie nord de la province du Sud-Kivu. Il demande à la Ligue de rapporter sa décision et d'attendre que la situation sécuritaire se normalise. Anani Lunanga est dans ce propos.
Je pense que le moment n'est pas opportun. C'est pas un bon moment pour organiser ces éliminatoires chez nous. La situation sécuritaire n'étant pas stable, on ne doit pas organiser de tels championnats. Le football reste un loisir, c'est bel et bien un loisir qui unit les gens, mais quand la sécurité ne le permet pas, on ne doit pas organiser ce genre de manifestations. Je pense que la Ligue doit d'abord sursoir son communiqué et observer comment la situation sécuritaire de la province va évoluer. Je le répète, on ne voudra pas qu'il y ait des infiltrations, que les gens soient distraits par le football pendant que ça brille. Donc, je demande aux dirigeants de la Ligue provinciale de football de sursoir cette décision. Pourquoi ça doit commencer par le Sud-Kivu? Nous n'avons pas encore vu d'autres communiqués, d'autres provinces qui sont un peu stables.
L'actualité sous une autre facette pour votre meilleure compréhension des faits saillants qui ont marqué dans différents domaines de la vie. Radio Mahindeleo vous propose l'élément des reportages.
Le député national élu de Kalehe, Vital Mouini, condamne l'occupation continue d'une bonne partie du territoire national au nord Kivu et au sud Kivu par l'armée rwandaise via ses supplétifs du M23. Dans un message de compassion adressé à la population victime, particulièrement celle de Kalehe, Vital Mouini appelle à la résilience et à la résistance face à l'ennemi tout en rappelant que cette situation passera aussi. Il invite la justice militaire qui a instruit sur les dégâts causés par des militaires incontrôlés de ne pas oublier que les habitants du territoire des Kalehe ont aussi été victimes de cette barbarie. On écoute.
Je suis profondément indigné, à l'instar de tout Congolais patriote, à cause d'une partie de la République qui est sous occupation du Rwanda et ses supplétifs du M23. Je cite une grande partie du Nord Kivu, une partie du Sud Kivu, notamment mon propre territoire de Kalehe. C'est une question existentielle. Quitte à nous rendre des apatrides, c'est-à-dire des citoyens sans patrie. Je me sens poignardé dans ma chair à cause de toutes les personnes tuées dans le Nord Kivu, spécialement à Goma. Singulièrement aussi à Kalehe, sur la partie littorale et les hauts plateaux de Kalehe. Et surtout, je me sens touché dans ma chair à cause de la destruction du tissu économique de la population. Ravissement des biens des paisibles citoyens, les vols systématiques qui haïssent du groupement Binga Nord et du groupement Binga Sud, où les gens ne disposent plus de rien. Je suis frustré par les déplacements massifs de citoyens de tous les nôtres, sans la moindre prise en charge. Mon message s'articule sur quelques points. Seulement, d'abord, je dois exprimer les condoléances les plus émues pour tous les Congolais qui sont morts à travers cette guerre injuste qui nous a imposée par le Rwanda, notre voisin, à Goma notamment. À Kalehe, depuis tous les hauts plateaux de Kalehe, à Minova, il y a eu des morts, à Kalungu, à Mukwija, à Kinezira, à Nyamasasa, à Nyabibwe, à Luchebel, ça c'est dans tous les Bufufu, à Mungoza, Ihusi, Chofi, Luzira, Kasheke, jusqu'à Kavumu. Je dois aussi réitérer toute ma compassion à tous les citoyens déplacés. Tout ce que je peux demander à notre population, c'est de rester résiliente et résistante. Comme disent les Grecs, et tout passe. Ça aussi, ça passera. Même la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 13, que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il donnera une voie de sortie. Je demande en même temps que la population reste véritable patriote. de vigilants soutenant notre armée et l'action du gouvernement, tous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Car l'ennemi qui arrive, il ne vise pas seulement nos richesses, du sol et du sous-sol, mais vise aussi nos terres. Il vise notre extermination. Quant à moi, au regard de mon rôle régalier, ce que j'ai pris, je joue mes efforts assez des autres personnages pour mener le plaidoyer où il le faut. Mon premier plaidoyer, c'est de faire savoir aux autorités provinciales à Bukavu et à Kinshasa que les militaires indisciplinés qui seront jugés n'ont pas volé seulement à Kabare, mais aussi ils ont volé à Calais depuis Minova, Kalungu, Nyamasasa, Mukwija, Kinyezire, ils ont volé à Mwea, ils ont volé à Nyabibwe, Tubushushu, Mwongoza, Yusi, Luzira, Chofi, Kacheke jusqu'à Kavumu. C'est-à-dire que quand on aura les incriminés, ils doivent justifier de leurs actes qu'ils ont posés dans tous ces coins-là. Je plaide en même temps et surtout pour la prise en charge humanitaire, pour un appui en vivres, à nos vivres et surtout en soins médicaux. Parole à tous nos frères et toutes nos sœurs en déplacement. Le dernier plaidoyer et le plus grand, c'est pour la paix qui doit passer par la cessation des hostilités et la fin de la guerre, afin que 30 ans de souffrance après, nous puissions aussi passer au chapitre de développement.
La revue de presse, Radio Mindélé au Cap, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo alimente la presse congolaise parue ce mardi. Les médias reviennent sur les réunions de restitution de l'équipe qui a été à Genève, mais aussi sur l'ouverture du procès en flagrance des militaires qui sont allés à la contre des principes consacrés dans l'armée. Hélène Boudjiriri pour la revue de presse.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu lundi 10 février à la Cité de l'Union africaine plusieurs membres du gouvernement pour discuter des résultats de leur participation à la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme tenue le 7 février à Genève, en Suisse, rapporte Les Potentiels. Cette session, note le journal, a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'est du pays. Selon l'agence congolaise des presses, le chef de l'État congolais a été informé de l'arrivée dans un avenir proche d'une mission d'enquête des Nations Unies pour les crimes et exactions de l'armée rwandaise dans l'est du pays. Le gouvernement congolais se félicite également, indique l'agence, que les pays participants exigent de l'agresseur rwandais le retrait de ses troupes du territoire congolais. Dans un autre cadre, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, a, au cours d'un briefing tenu devant la presse, indiqué que l'urgence absolue pour l'heure au niveau du gouvernement, c'est de parvenir à sortir la ville de Goma, province du Nord Kivu, des griffes de l'ennemi, du reste identifié comme étant le Rwanda, et de relancer le fonctionnement des services publics, fait remarquer la prospérité. De son côté, la Belgique a durci lundi à Bruxelles les tons à l'encontre du Rwanda, à qui elle demande de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo avant de plaider pour des sanctions contre Kigali, qu'elle qualifie d'agresseur, renseigne Forum des As. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, qui s'exprimait sur la question de l'invasion du territoire congolais par les Rwanda devant la Chambre des représentants, a évoqué la possibilité d'utiliser les leviers de la coopération avec les Rwanda pour envisager la suspension des aides, ajoute les tabloïds. Toujours en lien avec la situation dans l'est de la RDC, la tempête des tropiques fait état de l'arrestation des militaires et d'éléments d'autodéfense dits Wazalendo. Ces derniers, expliquent les quotidiens, sont accusés d'avoir commis des meurtres et des pillages dans certains villages du territoire de Kabare et dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Le tribunal militaire des garnisons de Bukavu a ouvert le lundi 10 février le procès en procédure en flagrance de ces 84 militaires venus des différentes unités pour meurtre, vol et pillage, révolte, dissipation des munitions et fuite devant l'ennemi à Katana, Mululu, Miti, Muresa, Mudaka et Kamanyola. Des faits commis lors des fuites devant les rebelles du M23 rappellent les portails qui notent que ces militaires ont tiré des coups de feu dans les villages, créant une panique au sein de la population. La plupart des prévenus ont été arrêtés à l'aéroport de Kavumu et ses environs, d'autres à Kamanyola, souligne la Agence congolaise des presses.
Ce message avant la fin, c'est Radio Journal. Très chers frères et sœurs, ceux qui vous sont vivant en République démocratique du Congo et partout au monde, il est de notre devoir de sortir du silence et condamner avec toute dernière énergie les affres et des guerres qui nous arrachent les nôtres en territoire des Kalehe, Kabare au sud Kivu et sur une partie de la province du Nord Kivu. Chers frères et sœurs, des grands Kivu, les gardes rapprochés de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo pointés sur certaines photos qui sont devenues virales dans les réseaux sociaux, messieurs Trésor Lombé est bel et bien à Kinshasa, originaire du Kwilu. Il n'est pas de l'Est. Eu égard de ce qui précède, nous mettons en garde tout individu qui confond Amani Bahati Shadrach, nommé vice-gouverneur du Nord Kivu par les rebelles, le faisant coller au nom de l'honorable Bahati Lukwebo Modeste, qui n'a aucun lien familial. Et d'ailleurs, ces derniers parlent le Kinyarwanda, alors que le sénateur Modeste Bahati Lukwebo n'en connaît rien de cette langue des agresseurs. En bref, le jeune uni pour les intérêts du Kivu condamne avec fermeté ces laboratoires d'ennemis et des personnes sans histoire politique claire qui se livrent à la diabolisation de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, l'un de nos fils du Grand Kivu. Nul n'ignore son engagement aux côtés du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui se bat au quotidien pour bouter dehors l'ennemi et ses supplétifs, le M23. Cet engagement vise à restaurer la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo en général et des provinces agressées, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri en particulier. En outre, nous félicitons et remercions certaines autorités politico-administratives qui ont accepté de rester en province et dans la ville de Bukavu pendant ces moments difficiles, en train de servir la population, à l'occurrence du gouverneur, le professeur Jean-Jacques Purusi, qui a fait son itinérance dans trois communes de la ville de Bukavu, Bagira, Ibanda et Kadutu, pour présenter les condoléances au peuple qui vous sient, victime de ces atrocités, qui est en souffrance des guerres, au maire adjoint de la ville, professeur Augustin Ruchogeza, qui malgré l'angoisse dans laquelle se retrouve la population, il a participé aux travaux communautaires Salongo les samedis derniers. Les mouvements citoyens jeunes unis pour les intérêts du Kivu invite les autres citoyens à rester aux côtés de la population, car dit-on, quand on avait frappé le berger, toutes les brebis se sont dispersées, font des citation. Fait ainsi fait à Bukavu le 11 février 2025. La coordination, donc pour la coordination, Balezi Chitabu Jean-Pierre, président national, et Alpha Djiri Luguerero Fidel, premier vice-président national, chargé de l'administration et finances, ont signé ce message. Exactement 6 heures passées des 46 minutes, mesdames, messieurs. C'est par cette note que nous mettons fin à cette édition du journal matinal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle d'Anissé Akonkwa au microphone pour la présentation. C'était Bémois Omer Moudekereza. Bonjour chez vous.